Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous informer en ce 1er avril. Il est 7h, bienvenue.
Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
Et à 7h, le journal vous est présenté par Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Elle fait partie des villes symboles en Ukraine. Boutcha, ville libérée des Russes depuis tout juste un an. À leur retour, les Ukrainiens y avaient découvert des cadavres de civils jonchant les rues. Nous n'oublierons pas Boutcha, déclare Emmanuel Macron un an plus tard.
À la une également, la fin de la trêve hivernale à partir d'aujourd'hui et les associations qui s'inquiètent de voir plus d'expulsions que d'habitude.
Et puis cette information Europe 1, des joueurs de l'Olympique Lyonnais victimes de plusieurs cambriolages, deux suspects viennent d'être interpellés.
Et à suivre dans ce après ce journal, l'hydrologue Agnès Ducharne, elle viendra commenter le plan eau présenté cette semaine par Emmanuel Macron. Mais avant cela, la tendance météo, Valérie Darmon.
Toujours perturbée avec de la pluie partout, de rares éclaircies et du soleil uniquement entre Marseille et Nice.
Et météo complète après le journal. Des maisons détruites et des cadavres éparpillés dans les rues, c'était il y a un an. Après le retrait des troupes russes, le monde découvrait l'horreur à Boutcha.
L'Ukraine estime que plus de 1400 civils sont morts dans le district pendant l'occupation russe, dont 637 tués dans la ville même de Boutcha. Un an plus tard, Emmanuel Macron accuse Moscou d'avoir laissé faire, voire encouragé les crimes de guerre de l'armée russe.
La France n'oublie pas et n'oubliera pas Boutcha, comme elle n'oubliera pas les crimes commis à grande échelle sur le territoire ukrainien depuis plus d'un an, à Izioum, à Marioupol, à Olenivka, et dans toutes ces villes du pays dont les infrastructures civiles ont été méthodiquement ciblées par la Russie tout l'hiver. Chaque semaine qui passe nous apporte son lot d'atrocités. Aucune exaction, aucune violation du droit international, aucun crime de guerre ou crime contre l'humanité, ne doit être oublié. Car il n'y a pas de paix sans justice.
Nous ne pardonnerons jamais, a aussi déclaré Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui promet un nouveau Nuremberg. Après 3 jours de soins pour une bronchite, le pape François doit sortir de l'hôpital aujourd'hui. Il présidera donc la messe des Rameaux demain au Vatican. Le pape François qui célébrera aussi, on l'a appris hier, une grande messe ouverte au public lors de sa visite à Marseille le 23 septembre.
En France, la fin de l'obligation vaccinale contre le Covid pour les soignants fait des vagues jusqu'en Guadeloupe.
Le ministre de la Santé François Braun s'est engagé à suivre rapidement l'avis de la Haute Autorité de Santé qui estime que la dynamique de l'épidémie ne justifie plus cette obligation. Mais du côté des soignants guadeloupéens, on demande le versement des salaires non perçus depuis leur suspension. Reportage à Pointe-à-Pitre de Stéphanie Sérac.
Du CHU de Guadeloupe à Pointe-à-Pitre, c'est un village qui s'est installé depuis un an et demi. Celui des personnels de santé suspendus qui ont refusé de se faire vacciner. Il serait encore près de 350, une situation unique en France. Parmi eux, Muriel, qui vend des chips locales pour arrondir les fins de mois.
Des chips de Madère.
Il y a encore 18 mois, c'est dans une clinique privée qu'elle officiait comme assistante sociale.
On fait comme on peut, on se débrouille. Mais c'est pas pour ça qu'on veut pas retrouver notre travail. On a des collègues qui ont perdu des maisons, qui ont perdu des voitures. La décision de la Haute Autorité de Santé, elle ne représente pas grand-chose. C'est un deuxième combat, la négociation de la reprise.
Pour Gabi Clavier, délégué syndical, UTS-UGTG au CHU de Guadeloupe.
L'État a fauté, et doit payer. La réintégration pour nous doit s'accompagner obligatoirement par le paiement de tous les salaires qui n'ont pas été payés. Nous avons le total des sommes dues. Pour le service seulement, ça représente 7 millions d'euros. Donc nous sommes très à l'aise sur ce dossier-là.
Pour l'instant, le centre hospitalier universitaire, principal interlocuteur, dit attendre les directives ministérielles et a jugé prématuré de parler de réintégration et de négociation. Stéphanie Sérac à Pointe-à-Pitre pour Europe 1.
À 7h05 sur Europe 1, nous sommes le 1er avril et en ce début de mois, mais il y a forcément des changements, à commencer par la trêve hivernale.
Les locataires qui ne paient plus leur loyer peuvent désormais être expulsés par leur propriétaire. Et cette année, plus que les autres, eh bien, ils pourraient être bien plus nombreux à se retrouver à la rue, d'après Christophe Robert, directeur général de la Fondation Abbé Pierre.
Pendant la crise sanitaire, le gouvernement, voulant protéger les ménages menacés d'expulsion, avait prolongé la trêve hivernale, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de ménages qui n'ont pas été expulsés. Pour autant, les procédures continuent de courir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'intervention des forces de l'ordre pour les expulser de leur logement. Donc il y a là des ménages qui, à partir du 1er avril, pourraient être menacés d'expulsion en nombre plus important. Et puis l'autre phénomène, c'est la fragilité aujourd'hui de nombreux ménages face à la flambée des prix, notamment des prix alimentaires, hein, 14% sur un an. Donc il y a une situation de tension qui appelle des réponses pour soutenir ces ménages en fragilité, une augmentation des appels qui constitue vraiment un levier essentiel pour aider les ménages à payer leur loyer. On appelle aussi à augmenter significativement le chèque énergie, à tripler le montant du chèque énergie pour permettre aux gens de se chauffer.
Et à noter également que depuis aujourd'hui, les 10 millions de Français éligibles à l'indemnité carburant ne peuvent plus en faire la demande. Et puis plusieurs prestations sociales, dont le RSA, sont revalorisées, tout comme l'allocation chômage qui augmente d'1,9%.
Clotilde, on en vient à cette information. Europe 1, la police a arrêté hier deux suspects dans une affaire de cambriolage qui visait des joueurs de l'Olympique lyonnais.
Ils sont soupçonnés d'avoir commis au moins 4 cambriolages ou tentatives de cambriolage. À chaque fois, William Molinier, ils visaient des joueurs en déplacement ou à l'entraînement.
Oui, des faits commis entre le 22 décembre et le 28 février dernier. 3 joueurs de l'Olympique lyonnais et un entraîneur du staff du club avaient été cambriolés. 2 suspects ont été rapidement identifiés grâce à la vidéosurveillance. 2 hommes âgés de 51 et 57 ans, déjà connus des services de police. Ils ont été attrapés la main dans le sac mardi dernier dans la région de Saint-Étienne. Les enquêteurs de la Sûreté départementale du Rhône les ont interpellés juste après un nouveau cambriolage. Ils ont saisi des bijoux, des pièces d'or, une voiture haut de gamme et surtout plus étonnant, dans la poche d'un des 2 voleurs, une liste écrite à la main. 12 adresses personnelles de 12 joueurs professionnels de football qui évoluent aujourd'hui dans les clubs de Lyon, Monaco, Nice et Montpellier. En garde à vue, ils ont expliqué qu'ils s'étaient procuré cette liste par un intermédiaire vis-à-vis duquel ils avaient une dette. L'enquête se poursuit notamment pour identifier d'autres victimes.
William Molinier du service police d'Europe 1, l'Olympique de Lyonnais qui va jouer demain soir contre le PSG, tandis que chez les femmes, ça y est, le nouveau sélectionneur des Bleus est entré dans le vif du sujet.
Hervé Renard a dévoilé sa première liste de 26 joueuses pour faire ses débuts en tant que successeur de Corinne Diacre, l'ancienne entraîneur de l'Arabie Saoudite, qui en a profité pour détailler les raisons de son arrivée à la tête de l'équipe de France féminine.
Je ne vous cache pas que même dans mon entourage le plus proche, ça a surpris beaucoup de monde. Mais moi, c'est une question de challenge. Il n'y a rien qui remplace les grandes compétitions dans notre métier. Donc là, on est servi puisque dans quelques semaines, cette Coupe du Monde, l'année prochaine, les Jeux Olympiques, qui plus est dans notre pays. Donc je pense qu'il n'y a pas meilleure explication que celle-ci pour comprendre mon choix. Et je pense également, pour terminer, qu'il y a un groupe de qualité et que tous ensemble, on est capable de faire de belles choses.
Et les premiers tests pour Hervé Renard et les Bleus, eh bien, ce sera face à la Colombie en match amical vendredi prochain, puis contre le Canada le 11 avril.
Un rendez-vous est pris. Merci Clotilde. Il est 7h08 sur Europe 1. Si vous vous levez, écoutez bien ce que va vous dire Valérie Darmon. Couvrez-vous, les températures flanchent, hein, Valérie.
Effectivement, les minimales qui sont comprises entre 5 et 8 à l'est, 8 à 10 à l'ouest et jusqu'à 15 en bord de Méditerranée. Les maximales qui deviennent fraîches et demain ce sera pire, avec 10 à 15 en général, 18 à 22 sur les régions méditerranéennes. Oui, demain on repasse sous les normales de saison. C'est un petit sursaut de l'hiver.
Bah oui, c'est avril quoi.
Voilà, c'est ça. C'est les giboulées de mars avec un petit peu de retard.
Alors, la terre, en revanche, va être bien arrosée. Ça, c'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle. De la Haute-Normandie à la Lorraine jusqu'aux Hauts-de-France, le vent qui s'est calmé, mais qui laisse derrière lui un ciel couvert, un ciel gris toute la journée qui donne des pluies continues et durables. Pour cette première journée de week-end, le ciel est tout aussi chaotique ailleurs, entre nombreuses averses et rares, voire très rares éclaircies. Des orages qui sont attendus sur toute la moitié nord dès la mi-journée. Ces averses qui se font sous forme de neige au-delà de 1200 mètres sur les Alpes, le Massif central et le Jura, 1300 sur les Pyrénées, le risque d'avalanche est élevé dans les Alpes, le vent d'ouest à nord-ouest qui est sensible aussi de la pointe bretonne à la côte aquitaine aux alentours de 70 km/h mais seulement en pointe, et près de la Méditerranée, ce vent d'ouest qui souffle fort, avec des rafales quand même ce matin encore, ça sent, et ce sera ce soir le cas dans le golfe du Lion, mais un ciel clair entre Marseille et Nice.
Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve évidemment à 7h30 dans un instant sur Europe 1, l'invité d'Europe 1 Matin Week-end. J'accueille l'hydroclimatologue Agnès Ducharne. Elle vient ce matin commenter chez nous le plan eau présenté par Emmanuel Macron. A tout de suite sur Europe 1.